mais en quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur juger la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de glèbe toute neuve. Mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Au mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont? Dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mangeteurs. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main, je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, vous êtes bien dans l'émission Les Mangeux de Terre, et qu'on essaye de faire tous les premiers lundis du mois. Il y a eu un petit loupé le mois dernier. Mais voilà, nous allons donc commencer bien notre tour d'horizon, on va dire, de sujets environnementaux, rattachés le plus que possible à, évidemment, une approche sociale, bien sûr, l'écologie sans le social. C'est du jardinage, c'est une citation je crois, mais voilà, c'est un peu ça l'esprit. La citation d'un syndicaliste dont je retrouve plus, pas le nom, mais en tout cas sud-américain je crois. Voilà, donc on va commencer par un petit tour d'horizon sans vraiment de thématique bien définie. Quelques articles glanés ça et là avec... Tiens, pour commencer, un chiffre, alors des données voilà, qui sont toutes les semaines mises en avant par le site Actu Environnement. Et cette donnée-là, c'est le coût de la possession d'une voiture pour un particulier qui s'est élevé en 2022 à 4 210 euros, donc de coût annuel, 14% de plus qu'il y a 5 ans, et c'est une information qui a pour source le réseau Action Climat, et ce montant étant largement impacté par la hausse du prix des carburants, qui risque donc de continuer de grimper, selon une alerte de la Fédération d'associations, pour atteindre presque 5 000 euros d'ici bien 2027. De quoi aggraver ce que le réseau Action Climat nomme la précarité mobilité de nombreux Français en raison du niveau élevé de leurs dépenses de carburant, de l'absence de moyens de transport, du vieillissement du véhicule ou de l'obligation d'effectuer de longs trajets sans une alternative à la voiture. Le réseau Action Climat estime que plus de 13 millions de personnes sont déjà concernées. Donc on le voit évidemment, un aspect lié aux ressources de chacun, hein, selon qu'on dispose d'un budget confortable ou pas, on ne vit pas les choses de la même façon, ça c'est une évidence. Et puis, mettre en avant ce chiffre, c'est aussi mettre en avant des coûts cachés, c'est-à-dire ce réflexe selon lequel, dans l'imaginaire, une voiture ne finit que par coûter le coût du carburant uniquement, alors que bien sûr, il faut tenir compte d'un amortissement à l'année, c'est-à-dire répartir le montant de l'achat du véhicule et bien sûr les différentes années de sa vie, reporter le coût des assurances, des stationnements, de toutes les taxes. Voilà, donc c'est pas neutre et parfois cette réalité-là est peut-être oubliée dans certaines conditions quand on dit que le train à des tarifs exorbitants, voilà. Comparativement, ça peut se discuter, mais bien sûr, on ne parle pas là d'une tarification sociale qui est très largement insuffisante, que ce soit pour les transports en commun, le train. On peut militer donc pour les transports gratuits, bien sûr, qui serait un vrai coup de pouce. Sur la question des transports, donc voilà, je voulais faire ce petit tour d'horizon à l'occasion de ce chiffre. Et puis après, je me tourne assez rapidement vers une revue. Alors, les 4 saisons du jardin bio, permaculture et alternative, le numéro de novembre-décembre, dans lequel... il y a quelques entrefilets intéressants sur le sujet du recyclage. On l'a vu, on en avait déjà parlé dans cette émission, plus efficace que le recyclage, il y a la consigne. Et donc je voulais vous faire état de 2 entrefilets concernant ce sujet, notamment au sujet de la bière, puisque en partant directement en Alsace, la revue nous dit qu'en Alsace, c'est culturel, la consigne. Avec plus de 25 millions de bouteilles consignées en circulation et 400 points de collecte, l'Alsace est en effet la seule région de France à n'avoir jamais arrêté la consigne. Un brasseur familial comme Météor et le géant Cronenbourg ont réussi à s'entendre pour harmoniser leurs bouteilles de 75 centilitres, ce qui leur permet d'obtenir une bouteille réemployée moins chère qu'une neuve. Le modèle économique est trouvé. En supermarché, les clients disposent d'une machine à déconsigner en libre service. Contre leur bouteille vide, ils reçoivent un bon d'achat de 20 centimes par unité à déduire de leur course. Les minéraliers alsaciens pratiquent également la consigne. Donc c'est les eaux minérales. Hein. 35% des bouteilles sont en verre réutilisables, essentiellement à destination du marché local. Certaines circulent depuis 12 ans. Et nos clients acceptent les traces d'usure, témoigne Francis Sterck, qui est responsable des ventes des eaux minérales Lisbeth. Ici, la consigne, c'est culturel, confirme Adrien Lacroix, porte-parole de l'association Alsace Consigne. On s'inspire de la Belgique et de l'Allemagne, deux pays voisins où elle est la règle. Depuis 2006, tous les détaillants et supermarchés allemands sont tenus de proposer un système de collecte des boissons consignées. Le code-barre suffit pour connaître le montant de la consigne et le bon d'achat est valable 3 ans. Outre-Rhin, près de la moitié du parc en circulation est constitué de bouteilles réutilisables. La consigne concerne aussi les bouteilles en plastique, réutilisables ou non, et même les canettes en alu, pourtant toutes à usage unique. Le taux de retour est de 90%. Ce système permet non seulement de réemployer le verre, mais aussi d'augmenter le recyclage du plastique et de l'alu. D'après le Centre européen de la consommation, 98,5% des bouteilles et canettes allemandes sont recyclées contre 56% des bouteilles en plastique et 43% des canettes en France. On voit que selon la politique qui est mise en place, les résultats peuvent être fortement variables. Et puis, toujours dans cette revue des 4 saisons, un article intéressant également qui remet en perspective cette question de la consigne avec un rappel historique, puisque instaurée au Royaume-Uni au début du 19e siècle, la consigne a vite gagné toute l'Europe, mais en France, dès les années 60, l'emballage à usage unique devient un argument de vente. Il est censé être plus sûr et plus sain car il ne sert qu'une fois. En 20 ans, les professionnels de l'emballage retournent l'opinion. On passe du verre consigné au verre perdu. L'augmentation du nombre de bouteilles qui en résulte contraint les pouvoirs publics à promouvoir le recyclage. En 92, un décret impose que les conditionneurs, les importateurs et les distributeurs doivent contribuer à l'élimination de leur emballage. La consigne est-elle de retour ? Que non ! Elle sera combattue par les industriels au profit des éco-organismes qui imposent une simple petite taxe sur chaque emballage. L'ADELF, une structure créée par le secteur des vins et spiritueux, assure que la consigne serait ingérable en France, d'après un rapport du Sénat datant de 1999. Jusqu'en 2008, Eco-Emballage prétend même que celle-ci présente un bilan environnemental non favorable, un entraînement de première classe. En 2010, un rapport du Centre national d'information indépendante sur les déchets, le CNID, dénonce ce ne sont pas des considérations environnementales mais commerciales qui ont conduit à la disparition de la consigne et évidemment, sous couvert de pouvoir valoriser une marque, de pouvoir développer ce qu'on appelle le marketing avec des bouteilles de forme complètement différente, il est clair que par rapport à ce qui est développé en Alsace, on ne peut pas facilement mettre en place cette consigne puisque chaque boisson n'est pas interchangeable, en tout cas par rapport à son contenant. Et on voit tous les bâtons dans les roues qui ont été mises au développement et au maintien de cette consigne qui était une pratique assez largement développée mais qui a été torpillée par des intérêts économiques, industriels. Quand l'économie est aux mains de quelques décideurs et qu'on n'est pas dans une autogestion généralisée, voilà ce que la logique financière peut aboutir à produire sur une société et sur l'environnement. Donc, pour continuer, un petit tour d'horizon. Cette fois-ci, je me tourne vers la presse sans publicité, donc L'Âge de Fer, avec un petit article sur un petit entrefilet, mais qui avec un jeu de mots plein d'esprit. Vous allez le voir au final, intitulé « La coupe est pleine ». Et qui nous relate le fait qu'Aurélien, un fan de foot, n'a pas du tout envie de cautionner la Coupe du Monde au Qatar qui commence le 20 novembre. Oui, il paraît que quelques 6500 ouvriers ont perdu la vie lors de la construction des stades. Oui, il paraît qu'il fera plus froid dans les stades en plein désert que dans les rues de Lille un 15 décembre. Voilà ce qu'il nous dit. Et alors, pour ne pas être esselé les soirs de match et mettre en valeur les bars qui s'engagent à ne pas retransmettre l'événement, Aurélien et ses potes ont lancé un site internet répertoriant les troquets où la télé sera éteinte, ainsi que les événements alternatifs qui seront organisés pendant le mondial. Et alors, donc, c'est là que le jeu de mots est très bon. Selon moi, le titre du site, c'est ramener la coupe à la raison.com. Hein, y a toujours cette phrase des sportifs qui avides de victoire, veulent ramener la coupe à la maison. Ben là, c'est ramener la coupe à la raison, .com. Donc, il recense toutes les initiatives, tous les bars qui ne diffuseront pas cette Coupe du Monde à grand spectacle qui s'est construit sur le sang des ouvriers, notamment, en particulier. Voilà, et toujours dans L'Âge de Fer, donc, qui est un mensuel de novembre, du mois de novembre, je voulais en profiter pour évoquer un entretien sur l'abattage de Bouquetin qui, pour moi, illustre bien le positionnement de l'État et sa sensibilité aux enjeux et aux pressions économiques, puisque en Haute-Savoie, donc, le préfet a ordonné l'abattage de 75 bouquetins contre l'avis des scientifiques, contre l'avis des citoyens qui ont participé à une consultation publique, en dépit d'une décision de justice et sans tenir compte du fait que l'espèce figure sur la liste rouge des espèces menacées. Alors, l'âge de fer a interrogé le docteur en géographie environnement Farid Benamou, qui juge cette décision criminelle. Et l'âge de fer pose donc la question, dans quel contexte le préfet a-t-il pris la décision d'abattre 75 bouquetins dans le massif du Bargy ? Réponse de Farid Benamou, à l'origine, il y a une maladie, la brucellose, qui a été identifiée chez une vache, et ce virus lui a été transmis par des bouquetins. Il faut quand même préciser qu'au départ, ce sont les animaux domestiques qui ont amené cette maladie en Europe. Elle a ensuite touché la faune sauvage, qui a constitué une sorte de réservoir du virus. Et depuis, c'est le ping-pong. Un coup, les animaux d'élevage contaminent la faune sauvage, un coup, c'est l'inverse. Mais c'est une maladie qui est la plupart du temps bénigne. Elle avait été repérée en 2012 quand deux enfants l'ont contractée en mangeant du reblochon. Le préfet avait ordonné un abattage massif de bouquetins dès 2013. Ils avaient complètement bouclé la vallée, interdit la zone aux journalistes, aux naturalistes et aux promeneurs, utilisé des hélicoptères pour évacuer les cadavres. L'horreur absolue. Aujourd'hui, il récidive alors qu'il s'agit d'une espèce protégée. On sait que ces abattages peuvent être évités et même qu'ils peuvent être contre-productifs. Question du journal, comment ces abattages peuvent-ils propager la maladie ? Explication, l'ANSES, donc qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, a publié en 2021 un avis relatif à l'évaluation de l'efficacité de différents scénarios de lutte contre la brucellose. L'agence a bien signalé que ce genre d'abattage pouvait être pire que le mal, parce que les survivants sont terrorisés et se dispersent, et donc, ceux qui sont porteurs du virus vont le disperser. Elle proposait d'autres scénarios, dont celui qui consiste à capturer les bouquetins et à éliminer uniquement ceux qui sont malades. En agissant de la sorte, on fait vraiment baisser la prévalence. Techniquement, c'est tout à fait possible, ça prend juste un peu plus de temps. Aujourd'hui, on sait que la prévalence chez les bouquetins n'est que de 4%. Donc 4% du groupe qui est touché. Il y a de fortes chances pour qu'en quelques années, sans rien faire, le virus se soit éteint de lui-même. Pour éviter le massacre, il faudrait aussi éviter les contacts entre cette faune sauvage et les troupeaux. Mais comme il y a de moins en moins de bergers et que les bêtes sont de plus en plus livrées à elles-mêmes, il y a des zones peu ou pas surveillées. Sinon, soit on regroupe les troupeaux, soit on éloigne les bouquetins et ainsi on évite les contacts. Il y a plusieurs solutions qui existent, mais celle qui est retenue est celle de la mise à mort. Comment expliquer alors une telle attitude de l'État, demande le journal. C'est très simple, le préfet cède aux pressions de la FNSEA, donc la Fédération syndicale agricole majoritaire, bien sûr. Celle-ci s'appuie sur la souffrance bien réelle d'un éleveur, car suite à la découverte d'un cas récent de brucellose dans son troupeau, toutes les bêtes ont été éliminées. Ça, ce sont les protocoles de biosécurité instaurés par les industriels qui font des vides sanitaires. Même chez les éleveurs, je pense qu'on pourrait éviter d'éliminer toutes les bêtes d'un troupeau en les testant et en abattant que celles qui sont malades ou en mettant en place des quarantaines. Ça permettrait aussi de prendre en compte le côté humain, psychologique de l'éleveur, car c'est très dur d'avoir à faire abattre tout son troupeau. Mais la FNSEA, donc le syndicat agricole, joue sur cette émotion au sein de la profession avec une espèce de faux bon sens paysan. Nous, on nous demande d'abattre tout notre troupeau, donc ça doit être pareil pour la faune sauvage. En gros, elle veut appliquer à la faune sauvage ce qui se pratique pour les élevages en créant des vides sanitaires. Sauf que là, on parle du bouquetin, qui est l'herbivore le plus rare en France. Dernière question du journal, vous allez jusqu'à qualifier le préfet de criminel, donc réponse de Farid Benamou. Dans le cas des bouquetins, le CNPN, donc qui est le Conseil National de la Protection de la Nature, qui est la plus haute instance consultative en matière de protection de la nature, suivie par les autorités dans la majorité des cas. Donc le CNPN a donné un avis défavorable et lors d'une consultation publique, 88% des avis étaient contre l'abattage. Donc, on a des avis scientifiques et des avis publics qui vont à l'encontre des abattages et un préfet qui, connaissant ses avis, ordonne des abattages. C'est d'autant plus grave qu'il décide de ne pas respecter la jurisprudence du tribunal administratif qui a suspendu des arrêtés d'abattage similaires. En effet, en mars 2022, il avait déjà signé un arrêté pour ordonner l'abattage indiscriminé de 170 bouquetins sur une population locale d'environ 300 individus. Des associations de protection de la nature avaient attaqué cet arrêté et obtenu sa suspension en référé devant le tribunal administratif de Grenoble. Sans attendre la décision sur le fond, le préfet a refait le même arrêté, sauf qu'il a réduit le nombre de bouquetins à tuer en passant de 170 à 75 et il a pris les associations de vitesse en publiant son arrêté le 14 octobre avec des abattages qui ont commencé dès le 16 octobre. Moi, donc, dit Farid Benhamou, j'estime en effet qu'il s'agit d'un comportement criminel contre la biodiversité. Voilà, eh bien, cet article, pour moi, illustre aussi le problème de la concentration des pouvoirs en bien quelques mains, finalement, en très peu de mains, et eh bien, on n'a clairement pas l'intelligence collective qui s'exprime, en tout cas qui oriente les décisions. Et puis, alors, vous avez peut-être l'impression que je saute du coq à l'âne. En tout cas, voilà, je fais pas des sauts de bouquetin, les pauvres. Je vais peut-être rebondir sur les cabines téléphoniques. Une initiative, donc. Paru dans Transrural Initiative, avec le témoignage d'un membre du collectif de l'Observatoire international pour l'installation des cabines téléphoniques, l'OIRCT, qui constate qu'il y a 2 ans, un parti un peu décalé, le parti Pop Politique, s'était lancé dans la campagne des municipales à Grenoble et avec, dans ses propositions, l'idée de réinstaller 22 cabines téléphoniques dans la ville. L'an dernier, le journal local donc de Grenoble, Le Postillon, s'était penché sur cette proposition en disant qu'il fallait aller jusqu'au bout de la démarche. L'article a touché pas mal de monde et avec des membres du Postillon et d'autres personnes, a été créé donc l'OIRCT. Nous avons lancé la première cabine téléphonique en mars dernier dans un parc où il n'y a aucun accès à l'électricité et Internet et la seconde vient d'être installée. À Grenoble, une part du budget municipal est consacrée à un budget participatif. On a été sélectionné parmi la trentaine de projets pour la suite qui va faire l'objet d'un vote plus large. Concrètement, comment ça marche ? Alors, même si ce n'est pas satisfaisant, le collectif est obligé de passer par Internet. Le collectif a acheté un téléphone fixe qui fonctionne comme un portable sur batterie avec une carte. Ça donne un objet sur mesure, les gens peuvent l'utiliser mais pas l'emporter. Il y a plusieurs dizaines d'appels par jour, il y a pas mal de jeunes ados qui s'en servent pour prévenir leurs parents qu'ils sont arrivés au parc, des sans-papiers, ceux qui n'ont pas de portable. Derrière cette initiative, quel est le message que veut faire passer l'association ? C'est le collectif. Le collectif n'est pas dans une optique passéiste ou nostalgique, mais dans une optique de montrer que l'utilisation de la cabine téléphonique est un choix de société, de refus de la numérisation générale et de réclamer le droit de vivre sans smartphone, sans téléphone et être sans cesse fliqué, tracé. La revendication, c'est un monde rempli d'humains et pas de robots. Beaucoup disent qu'il faut des médiateurs pour des gens qui sont éloignés du numérique. Le collectif n'est pas là-dessus et dit qu'il faut pouvoir vivre normalement sans smartphone, sans ordinateur et que les services publics soient aussi sans connexion Internet. Qu'on puisse faire des démarches sans fournir 3 codes et prendre rendez-vous chez le médecin sans aller sur Doctolib. On a l'impression que la numérisation générale est une fatalité. On est persuadé, donc dans le collectif, que non. Les choix politiques qui servent les grands intérêts privés notamment, ça ne dessine pas un avenir désirable. La cabine téléphonique est-elle donc un symbole ? C'est un acte décalé et un peu inattendu, car le nombre de cabines n'a fait que baisser depuis 25 ans. Il y en avait 300 000 en 1997. Il y en a maintenant moins d'une dizaine actives en France. Mais ce n'est pas une fatalité. Dans d'autres pays, il en reste beaucoup plus. En Australie, ils viennent de décider de rendre gratuits les appels nationaux sur les 15 000 dernières cabines, avec un discours très clair pour lutter contre la fracture numérique. La disparition des cabines, c'est le résultat de choix politiques. Voilà, eh bien, une initiative que je voulais relayer parce que, eh bien, elle s'exprime pour le droit de vivre sans smartphone et puis surtout, elle encourage un usage très sobre, évidemment, des matériaux. Et puis pour conclure ce petit tour d'horizon général, éparse, non thématisé, on va dire, je vais me faire l'écho d'un article paru sur Novétique le 27 octobre sur le lithium et le projet donc du groupe Imerys d'ouvrir une mine de lithium dans l'Allier sur un site existant d'extraction de kaolin, un projet qui doit permettre à la France de renforcer sa souveraineté sur l'approvisionnement de ce minerai crucial pour la transition énergétique. Mais l'acceptation des mines de lithium rencontre de fortes oppositions locales en France. Le groupe minier va devoir faire de gros efforts pour démontrer l'utilité du projet et donner de sérieuses garanties sur son impact environnemental. Donc, la mine de lithium que le groupe Imerys veut ouvrir dans l'Allier sur le site de sa mine actuelle de Kaolin à Beauvoir a reçu le soutien de tout le gouvernement. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, se félicite d'un projet qui réduira drastiquement nos besoins d'importation de lithium. La ministre de la Transition énergétique se réjouit d'un projet qui permettra d'assurer notre indépendance énergétique et industrielle. Le groupe minier français mène depuis plusieurs mois des études sur son site pour en évaluer le potentiel. Il a détecté un filon de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, l'équivalent de la production de 700 000 batteries de véhicules électriques par an, qu'il compte commencer à exploiter à partir de 2028. Pour Imerys, ce projet est particulièrement attractif car il lui permet de se positionner sur un des minerais cruciaux pour la transition énergétique. La demande pour le lithium devrait continuer à augmenter dans les prochaines années en raison de l'électrification de pans entiers de l'économie comme l'automobile. Selon une étude de Novetic sur les minerais de transition, la production de lithium devrait être multipliée par 13 d'ici 2030 sans pour autant suffire à satisfaire la demande. L'ouverture d'une mine dans l'Hexagone est pourtant loin d'être gagnée. Des projets d'ouverture de mines ont déjà rencontré une forte opposition locale, notamment en Bretagne, où un gisement important a été détecté à Tréguennec et où les habitants ont rapidement manifesté leur désapprobation. La vraie question qui se pose, c'est de savoir si on arrivera à faire une mine socialement acceptable et écologiquement responsable. C'est la condition nécessaire à l'installation d'un tel projet, donc à la souveraineté du pays sur ses minerais. Remarque Pierre-Alexis de Vauplan, associé chez Ring Capital à un fonds d'investissement à impact et auteur de Demain la souveraineté, aux éditions Hermann. L'enjeu de l'acceptation sociale des projets miniers en Europe repose sur une meilleure compréhension des enjeux de l'importation des minerais. C'est de la pollution importée, rappelle Pierre-Alexis de Vauplan. Il est de nos responsabilités de réintégrer cette chaîne de valeur de manière responsable et d'avoir les mines sous les yeux. Le côté responsable de la future mine de Beauvoir est justement très largement mis en avant par Imerys. L'industriel assure que son projet sera conforme à la norme IRMA. C'est pas de la voyance, hein, ça veut dire initiative pour l'assurance d'une extraction minière responsable, qui oblige notamment à prendre en compte l'environnement et les droits humains. Imerys déclare ainsi vouloir recourir à des techniques d'exploitation souterraine pour réduire l'impact sur les sols et la biodiversité, ou encore de travailler sur la réduction des émissions de CO2 en utilisant des véhicules électriques, les voies ferrées, etc. Le minier assure au total être capable de réduire de moitié les émissions de la production de lithium par rapport aux autres projets dans le monde. Selon Pierre-Alexis de Vauplan, l'ouverture de mines de lithium en France sera nécessaire pour assurer les besoins de la transition énergétique. Mais il va falloir donner de véritables garanties pour qu'il n'y ait pas de suspicion de greenwashing et d'aller plus loin dans la transparence, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a une telle défiance vis-à-vis des mines qu'il faudra des engagements précis, estime-t-il. Pour Judith Pigneur, spécialiste des questions minières pour les Amis de la Terre, la question de l'extraction minière en France doit être posée de manière plus globale. Dans une interview à Radio Classique, elle insistait sur le fait qu'il fallait avant tout faire un bilan poussé et sérieux des besoins, en ajoutant « D'abord, on doit se concentrer sur la sobriété, ensuite sur le recyclage et enfin sur une potentielle extraction du lithium. » En clair, extraire du lithium pour produire des véhicules SUV à empreinte carbone très élevée n'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, cet article de Novetic qui rejoint, il me semble, le débat qui était ouvert, en tout cas on avait fait l'écho dans l'émission, du livre de Guillaume Pitron sur la raréfaction des métaux, et qui concluait justement par le fait qu'il sera peut-être utile d'ouvrir des mines proches de là où les gens consomment, hein, pour interroger vraiment nos usages. Et bien sûr, on doit lutter pour une exploitation de ces ressources avec bien des garanties environnementales et sociales. Mais au-delà de ça, on doit aussi s'interroger sur les usages, c'est-à-dire on ne peut, à mon sens, se contenter d'être un collectif luttant sur l'ère de ni ici ni ailleurs de l'extraction minière et continuer sur des modes de consommation avec notamment des téléphones portables, avec des véhicules électriques, consistant à reporter sur bien d'autres pays, et on sait dans quel pays, hein, ceux qui ont les garanties sociales les moins protectrices et dont les populations souffrent le plus. On ne peut pas reporter le poids de notre consommation, l'impact de notre consommation sur d'autres pays et se laver les mains finalement en disant on n'ouvrira pas de mine sur le territoire et tout en continuant cette consommation effrénée. C'est un peu le sens des observations qui ont été faites à travers cet article et ça me semble nécessaire en tout cas de réfléchir à ces questions. Ça pose de véritables questions, de véritables enjeux quant à l'objet de l'article, donc le développement de la voiture électrique. Bien sûr, on est toujours très critique dans cette émission. C'est encore une fois dans les pistes et les scénarios la solution favorite du système capitaliste qui veut nous vendre des gadgets et nous dire que la technologie va nous sauver, à contrario de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire à commencer par interroger les usages et contraindre les usages à ce qui est écologiquement supportable. Donc la sobriété en premier, bien avant l'innovation technique et tous les gadgets. La voiture électrique ne sauvera pas le climat et ne nous donnera pas un impact sur l'environnement compatible avec la préservation de la planète, c'est absolument clair. Voilà. L'introduction a été très longue. On va s'accorder une vraie respiration dans une ville qui s'endort avec Jacques Brel. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89,4 MHz.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante, je veux dire
rire en cela, qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chantent un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait.
La ville s'endormait de Jacques Brel sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Vous êtes dans l'émission Les Mangeterres et nous poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité environnementale et de l'écologie sociale au sens large. Alors avec la page énergie que on a quand même déjà évoquée par un premier tour d'horizon, on va dire un peu éclectique. Il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur ce mois d'octobre qui est parmi les plus chauds, je crois même le plus chaud. Les glaciers pyrénéens ont perdu 90% de leur superficie. Un article de reporter du 17 octobre nous le rapporte avec une crainte donc qu'il n'y ait bientôt plus de glaciers dans les Pyrénées. Une crainte partagée par les glaciologues de l'association Moraine et de l'Institut des géosciences et de l'environnement de Grenoble. Dans une étude sur la fonte des glaciers dévoilée dans Libération, donc, les scientifiques ont calculé que depuis 1950, les glaciers des Pyrénées ont perdu 90% de leur superficie et il n'en reste plus que 23 sur 44 recensés en 2000. Malgré les mesures, malgré le fait qu'on sait que ça fond, on est toujours surpris par ces chiffres, se désole Pierre René, qui est fondateur de Moraine. Cette année, le glacier d'Aussoux, le plus haut des Pyrénées, a perdu plus du double de son épaisseur par rapport à la fonte moyenne des 20 dernières années. Cette disparition touche aussi les Alpes françaises, où la fonte serait trois fois plus importante que d'habitude. Le glacier de l'Argentière, le second plus grand des Alpes, a perdu du volume dans des proportions quasi similaires à son confrère pyrénéen. À terme, il ne pourra plus alimenter le barrage hydroélectrique qui dépend de lui. À cause de la hausse des températures, les scientifiques estiment que d'ici la fin du siècle, l'intégralité des glaciers de ces montagnes auront disparu ou seront proches de l'extinction. Dans Libération, Christophe Cassou rappelle que la fonte des glaces et des calottes est la seconde cause de hausse du niveau des mers. Voilà, sur le mois d'octobre, eh bien, on a une différence aussi de 3,5 degrés plus chaud donc au mois d'octobre 2022 par rapport aux moyennes de la période antérieure. Alors, je n'ai pas la référence, mais en tout cas, c'est le mois le plus chaud depuis le début des mesures en 1945 en France. Et il s'inscrit dans une évolution attendue et déjà visible des vagues de chaleur. Alors face à ça, avec le réseau Action Climat, il y a un décryptage des réponses politiques qui sont faites, en tout cas des réponses à minima, puisque le réseau Action Climat a décrypté le plan sobriété du gouvernement qui a été annoncé début octobre. Et le 6 octobre, le gouvernement a présenté un plan officiel pour réduire la consommation d'énergie. Réponse d'urgence ou pour prévenir le blackout cet hiver ou véritable changement de trajectoire pour la politique énergétique et environnementale du gouvernement. La question est posée par le réseau Action Climat France. Une chose est certaine, la sobriété n'est plus un choix. Après des années d'inaction climatique, la France doit mettre les bouchées doubles et entamer dès à présent un virage fort vers la sobriété dans tous les secteurs, tout en agissant pour éradiquer la précarité. Et qu'en est-il de ce qui a été présenté par le gouvernement ? Alors, parmi les lignes de force du plan, qui a vocation à donner des directives aux citoyens, collectivités, États et entreprises sur les bonnes pratiques à adopter, on retrouve par exemple la limitation du chauffage, un coup de pouce au covoiturage, la limitation des déplacements professionnels, la diminution de la lumière dans les magasins. Quelques bonnes mesures ressortent comme le report des trajets en avion vers le train quand l'alternative existe en moins de 4 heures. Malheureusement, constate le réseau Action Climat, sur la majorité de nos conditions, les propositions ne sont pas à la hauteur de l'enjeu global. Là où le plan du gouvernement montre des pistes intéressantes pour passer l'hiver, pour mettre en place des mesures de bon sens, il reste aveugle par rapport à la nécessité d'un changement de paradigme concernant nos modes de consommation. De plus, ce plan n'a aucune portée contraignante, y compris sur les plus gros pollueurs. Alors, un décryptage qui est fait en plusieurs critères. Le premier critère, c'est la sobriété socialement juste et équitable. Pas de sobriété ajoutée à celle et ceux qui sont déjà contraints, martelait Stanislas Guérini devant le parterre de la porte de Versailles, donc du gouvernement. Le plan présenté par lui donne pourtant tort, nous dit Réseau Action Climat France. En ne ciblant pas les plus précaires, le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, la remise à la pompe et les factures de chauffage, ne permet pas de lutter efficacement contre la précarité. Alors que de nombreux foyers vivent depuis longtemps une sobriété contrainte, 12 millions de Français souffrent de précarité énergétique, ils auraient au contraire besoin d'un accompagnement renforcé qui n'arrivera pas avec ce plan. Sans volonté structurelle de rehausser les minima sociaux et bas salaires, le souhait gouvernemental de mettre à mal la précarité restera un vœu pieux. Parmi les grands absents de ce plan, on trouve également la taxation des super-profits qui aurait pourtant permis le financement d'une telle mesure. Le système de bonus sobriété sur les factures de gaz et d'électricité en fonction du niveau de consommation du logement qui est proposé par certains fournisseurs d'énergie peut soulager le portefeuille de certaines familles, sous condition que l'offre soit bien transparente. Sinon, à la place de bénéficier d'une baisse de 30% en période hors pointe avec EDF, la facture peut se doubler lors d'une consommation d'électricité en période tendue. Aussi, il ne s'agit pas d'une mesure gouvernementale, car les propositions varient d'un fournisseur à l'autre, ce qui nuit à la cohérence globale. Deuxième point, examiné par le réseau Action Climat, une sobriété au-delà du passage de l'hiver et qui constate que si la sobriété est présentée par les ministres comme un levier pour respecter les objectifs climatiques et énergétiques de la France, ce propos étant affirmé par Matignon qui souligne un changement qui ne relève pas seulement de la conjoncture, pourtant la présentation qui a été faite début octobre ne laisse pas planer de doute. Le gouvernement se met en ordre de marche pour une sobriété qui ne poursuit qu'un objectif, éviter à tout prix les coupures d'électricité et de gaz cet hiver. De quoi craindre un retour à la normale dès le printemps prochain. On peut peut-être faire un commentaire là-dessus. De toute façon, on le sent, on a en face de nous des convertis de la dernière heure sur l'environnement, répondant simplement aux effets de la crise énergétique, mais n'ayant aucune vision, bien sûr, plus long terme, tout le discours sur la croissance économique repartant de plus belle. Sitôt qu'on passe quelques secondes à s'apitoyer sur le sort des petits oiseaux des effets du climat, tout de suite le discours économique dominant du capitalisme financier lui reprend et largement l'épine dorsale du gouvernement. Je reprends l'article. Troisième critère, la sobriété des consommations en général et de tous les secteurs. On ne va pas demander à nos concitoyens de rouler à 110 km/h, a déclaré Stanislas Guérini, satisfait de ce qu'il pense être un bon trait d'esprit. Plutôt d'un aveu d'être absolument à côté de la plaque s'agissant de la portée que devrait avoir un véritable plan de sobriété. C'est dommage de rire d'une mesure qui permet de réduire de 20% la consommation de carburant sur un même trajet, note le réseau Action Climat. D'une mesure structurante, nous passons donc à une simple incitation qui ne concerne que les agents publics. Une fois de plus, en se concentrant surtout sur la consommation d'électricité et de gaz, le gouvernement illustre sa pensée court-termiste. De ce fait, il ne s'attaque pas aux grands axes de la transition écologique que sont la sobriété dans les transports, rouler moins vite, avec des voitures moins lourdes, et prendre moins les transports les plus polluants comme l'avion. Même son de cloche pour l'alimentation où la sobriété la plus efficace concerne la baisse de produits animaux. Aucune mesure n'a été évoquée pour le secteur agricole et pourtant, l'agriculture intensive fonctionne en effet sous perfusion d'intrants fossiles et d'intrants toxiques tels que les pesticides de synthèse, les engrais azotés produits à partir de gaz fossiles. Les cultures sous serre chauffées, parfois à contre-saison pendant l'hiver, consomment également beaucoup d'énergie fossile, tant de gisements d'économie d'énergie qui ne sont absolument pas abordés dans le plan gouvernemental. Quatrième critère, sur l'accompagnement des citoyens, entreprises et collectivités qui soient à la hauteur. Alors, la mise en place d'une météo-énergie indiquant l'état du réseau électrique et d'une campagne de sensibilisation sur les gestes individuels seront deux des actions du gouvernement à destination des citoyens, mais pas d'accompagnement personnalisé des ménages prévu notamment dans la durée. Or, le changement des comportements se fait dans la durée, justement, sans prolongement des actions de sensibilisation, des incitations et accompagnement technique. Il sera difficile de passer le cap entre la motivation à court terme de passer un hiver sans coupure et un changement durable des comportements. Lors de la communication gouvernementale, on sentait un enthousiasme généralisé d'avoir découvert un gisement d'économie d'énergie presque gratuit, une sorte de solution miracle. Un mot tabou, la sobriété, considérée amiche et ringard, s'est transformée tout d'un coup en une bouée de secours. Cependant, on peut avoir des doutes sur l'accueil de la campagne de sensibilisation, venant du haut sans véritablement adresser ni le sentiment d'injustice sociale, ni l'impunité des riches qui continuent à gaspiller face à la demande de se serrer la ceinture. Un scandale de jet privé de plus suffira pour faire partir en fumée l'efficacité de la campagne du gouvernement. Cinquième point noté par le réseau Action Climat, demander au gouvernement d'arrêter ses contradictions. Si les messages de l'État incitent à réduire la consommation, mais que la publicité incite au contraire à consommer davantage, les résultats ne pourront être au rendez-vous. L'arrêt des panneaux publicitaires en cas de tension sur le réseau et pendant la nuit entre 1h et 6h représente une mesure emblématique, mais le gouvernement s'arrête malheureusement là. Le sujet de l'interdiction de la publicité pour les produits polluants est tristement un énième trou dans la raquette. Le fait que les mesures de sobriété proposées restent pour une bonne partie assez indolores et ne nécessitent pas un questionnement des modes de consommation représente un atout pour l'acceptabilité immédiate. Cependant, le plan du gouvernement rate l'occasion de mettre en cohérence nos modes de vie et nos consommations avec les limites de la planète. Sixième point, sur le suivi des engagements de sobriété, le gouvernement s'engage à régulièrement faire des points d'avancement en fonction de notre consommation et de la météo de l'énergie. Nous saurons alors si nous avançons au bon rythme et dans la bonne direction. Les entreprises s'engagent à utiliser des outils de pilotage, suivi et mesure en temps réel des consommations énergétiques. Cependant, aucun suivi de mesure d'une manière centralisée n'est envisagé. Au vu de la nature volontaire des engagements, donc tout ça, ça repose effectivement sur des engagements, ça ouvre la porte au greenwashing et ça comporte le risque de se trouver devant des belles paroles, voire de la publicité de ces bonnes actions et pas des économies d'énergie réelles, en tout cas pas à l'échelle voulue. Pour augmenter la crédibilité et la durabilité des engagements, les grandes entreprises devraient se plier à un reporting, donc c'est-à-dire à rendre des comptes, hein, tout simplement, obligatoirement, sur la diminution des consommations énergétiques dues à des mesures de sobriété énergétique additionnelles, estime le réseau Action Climat. Et parmi les deux derniers critères donc, d'analyse de ce plan gouvernemental, l'avant-dernier est la sobriété et l'efficacité énergétique qui doivent être accélérées ensemble. Le réseau Action Climat pointe l'absence de réflexion pour l'efficacité énergétique, puisque le gouvernement manque de construire le lien avec les mesures pour améliorer cette efficacité énergétique, c'est-à-dire comprendre et rendre nos pratiques et biens de production moins énergivores. En tête du classement, la rénovation performante des bâtiments, pour laquelle les moyens mis sur la table par le gouvernement restent encore très inférieurs aux besoins. Et enfin, le dernier critère analysé, la consommation moindre mais de meilleure qualité. Le gouvernement a annoncé un triptyque, je baisse, j'éteins, je décale. Alors quand il dit je décale, il ne parle pas de l'âge de départ à la retraite, mais on pourrait aussi l'imaginer. Je baisse le niveau de vie, voilà, bon, j'arrête de persifler sur ce slogan et je reprends, qu'en est-il, donc je baisse, j'éteins, je décale, c'est ça le slogan, la campagne de sensibilisation, qu'en est-il de j'améliore? L'absence de la perspective d'une consommation moindre mais de meilleure qualité est fâcheuse à deux égards, nous dit le réseau Action Climat. Premièrement, c'est de l'ordre de l'idée qu'on se fait de la sobriété, puisque celle-ci doit s'inscrire dans le long terme. Il n'est pas question de l'envisager comme une punition ou un rationnement, mais au contraire comme l'amélioration de conditions de vie. Ça passe par exemple par une alimentation moins carnée mais de meilleure qualité. C'est un exemple. Deuxièmement, l'absence de soutien à la production locale et de qualité est déplorée également. Consommer mieux induit de soutenir un système productif alternatif aux voies de l'intensif et de l'industriel. C'est le cas dans l'industrie, dans l'agriculture, avec le soutien au bio et aux pratiques agroécologiques, par exemple. C'est aussi le cas pour l'énergie, avec le soutien aux projets citoyens d'énergie renouvelable. Conclusion de cette longue analyse du réseau Action Climat, on reste donc malheureusement sur un plan de sobriété court-termiste qui comporte cependant un potentiel de baisse des consommations énergétiques important, mais pas de réel cap vers une transition écologique qui implique une mise en question de nos modes de consommation et de production. Et on ne s'en étonnera pas forcément sur cette antenne, puisque lorsque la production est totalement orientée par quelques mains et surtout par beaucoup de capitaux, qui est détenu dans quelques mains, évidemment, aucune solution défavorable à ces capitaux ne peut être mise en œuvre. Alors, focus aussi sur la rénovation thermique avec Reporter dans un article du 31 octobre sur la Cour des comptes, bon, qui a sa boîte d'épingle, hein, puisque la Cour des comptes épingle, c'est quasiment des termes qui se suivent systématiquement. Et là, il y a une petite nuance, c'est qu'elle étrille l'impéritie du gouvernement en matière de rénovation thermique. Dans une note rendue publique le 28 octobre, la Cour des comptes estime en effet que les politiques de rénovation énergétique sont peu efficientes, peu efficaces donc, et mal évaluées, et manquent de cohérence. Donc, avec les appréciations suivantes, des objectifs à préciser, des résultats limités, une évaluation insuffisante, voire inexistante, c'est une note salée, nous dit Reporter, que dresse la Cour des comptes de la politique de rénovation énergétique du gouvernement dans le rapport publié donc vendredi 28 octobre. Une première évaluation, car la juridiction n'a pas pu aller au bout de son travail du fait de la difficulté d'exploiter des données incomplètes et disparates. Même la notion de rénovation énergétique reste imprécise. Le gouvernement se réjouit depuis des mois d'avoir augmenté sensiblement le nombre de logements ayant reçu une subvention. Commentaire de ma part, effectivement, on a vu cette communication à tout va sur MaPrimeRénov. Le nombre de dossiers et le nombre d'aides distribuées, l'information est bien passée, le gouvernement s'en est bien gargarisé, mais en tout cas le résultat, parce qu'il ne s'agit pas de mettre en œuvre des moyens, il s'agit aussi de regarder les résultats, et bien là-dessus il y a beaucoup moins de communication. Et le rapport de la Cour des comptes rectifie le tir. Je reprends la lecture de l'article de Reporter. En fait, sur les 750 000 financements débloqués auprès de l'Agence nationale de l'habitat, donc ce qu'on appelle l'ANA, en 2021, les trois quarts des actions ont consisté en un simple changement du mode de chauffage, notamment pour les poêles et chaudières à granulés ou les pompes à chaleur. Mais selon les données de l'ANA, ce ne sont que 50 000 rénovations globales qui ont été réalisées. Donc sur 750 000, on voit que eh bien, ça fait, si on calcule bien, ça fait à peine, ça fait à peine 8% à peu près. Hein, et seulement 5 000 pour des maisons individuelles. Or, selon la stratégie nationale bas carbone, donc c'est une stratégie voilà, française, c'est 15 fois plus de rénovation globale qui serait nécessaire pour atteindre la neutralité carbone du parc de logements en 2050. Donc on voit qu'on est à un rythme qui est 15 fois inférieur à ce qu'il faudrait faire pour atteindre la neutralité carbone. Cette donnée n'a pas échappé à la Cour des comptes qui pointe une évaluation insuffisante ou inexistante des quantités d'énergie économisées et d'émissions de gaz à effet de serre évitées. À tous les niveaux, le rapport déplore le manque de suivi de politiques qui ont représenté jusqu'à 7 milliards d'euros en 2021 en incluant les aides d'État, donc MaPrimeRénov dont je parlais, et les financements privés et ceux des collectivités. Exemple parmi d'autres, la non prise en compte de l'effet rebond bien connu des foyers contraints de se sous-chauffer faute de moyens. Même quand ceux-ci entreprennent des travaux importants qui ne sont aidés qu'à 60% maximum, la facture d'énergie de ces ménages ne diminue pas forcément une fois que ceux-ci rétablissent un confort minimal, donc se chauffer à 19 degrés, dont ils avaient été longuement privés. La Cour relève, Cour des comptes relève justement que les effets des gestes d'isolation sur la santé des habitants ou le confort, notamment acoustique du logement, ne sont pas pris en compte. Une étude menée par le ministère lui-même donc de l'écologie au printemps dernier évalue justement à 10 milliards d'euros par an les dépenses de santé économisées si l'ensemble des passoires énergétiques étaient rénovées d'ici 2028. La note de la Cour des comptes souligne encore que l'utilisation de matériaux écologiques reste très marginale face aux rénovations classiques. Pis encore, l'empreinte environnementale d'une rénovation n'est pas un critère utilisé par les pouvoirs publics. L'utilisation donc de ces matériaux écologiques reste très marginale face aux rénovations classiques à base de laine de verre, murs en plâtre et fenêtres en plastique. À cela s'ajoutent des règles de cumul des aides qui ne sont ni stabilisées ni aisément compréhensibles pour les usagers. Plus largement, selon la Cour, il manque à la politique de rénovation énergétique des bâtiments un pilotage fort et efficace et un service public de l'accompagnement efficient sur l'ensemble du territoire national. Et ce, malgré la création de France Rénov en janvier 2022, le service public de la rénovation annoncé s'apparentant pour l'instant plus à un simple annuaire. On notera bien, ça je fais ce commentaire, cette publicité consistant à rajouter France devant toutes les initiatives du gouvernement. C'est ce qu'on appelle probablement du marketing. En tout cas, on voit un peu le niveau rien qu'en regardant ces noms. Je reprends la fin de l'article. Toujours soucieuse des dépenses publiques, la Cour des comptes prévient le gouvernement que cette politique au coup par coup risque de s'avérer plus coûteuse à moyen terme en devant financer de nouveaux travaux avec de nouvelles aides publiques pour tenir les objectifs déjà inscrits dans les textes. Une nouvelle démonstration que l'action immédiate pour le climat et l'efficacité énergétique est, même d'un simple point de vue budgétaire, la solution la plus pertinente. Et puis, pour terminer sur le sujet, on ne peut que relever avec le réseau Action Climat France qu'avec le 49.3, le gouvernement fait l'impasse sur deux mesures phares pour la transition écologique. C'était la semaine dernière, le 2 novembre, le gouvernement a actionné l'article 49.3 sur le projet de loi de finances 2023 en balayant deux amendements phares pour la transition écologique, des augmentations de 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des logements et de 3 milliards d'euros pour le développement du ferroviaire. Le réseau Action Climat dénonce le choix du gouvernement d'utiliser le 49.3 afin d'empêcher ces avancées majeures pour le climat et le pouvoir d'achat. Selon Emmeline Notari, qui est responsable des politiques climat au réseau Action Climat, en rejetant les investissements indispensables à la transition écologique et sociale, le gouvernement ne semble toujours pas entendre qu'investir aujourd'hui dans la transition, c'est se prémunir contre les crises de demain. De plus, il vient priver de nombreux ménages de meilleures conditions de vie et envoie un très mauvais signal à quelques jours de l'ouverture de la COP27. Les amendements augmentant de 12 milliards d'euros le budget pour la rénovation thermique des logements avaient été adoptés et ne se retrouveront pas donc dans le texte final. Ces propositions permettaient pourtant d'apporter une réelle solution à la crise énergétique que nous traversons en baissant durablement les factures d'énergie, en particulier pour les ménages aux bas revenus. 3 milliards par an sur la question du ferroviaire. 3 milliards par an, c'était pourtant la somme nécessaire à la réouverture, au maintien et au développement de lignes de train du quotidien, RER métropolitain, petite ligne, intercité, train de nuit. En faisant l'impasse sur cet investissement, le gouvernement retarde encore une fois la sortie d'une mobilité fondée sur les énergies fossiles au détriment du climat et du pouvoir d'achat, nous dit le réseau Action Climat. Voilà, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un tour assez complet sur cette question. On va s'accorder une pause musicale, si j'arrive, oui, c'est bon, à voilà, retrouver la musique que je vais lancer tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Taxi par le groupe La Femme sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Nous reprenons notre tour d'horizon. Alors après la page énergie, arrêtons-nous sur le nucléaire. Allez, pour commencer, un article dans Le Canard Enchaîné de cette semaine d'Hervé Liffrand sur le débat sur l'énergie bien corrodée. C'est l'intitulé, avec la décision de Macron de construire 14 EPR 2, donc dit de nouvelle génération. Cette décision fait l'objet d'un grand débat public organisé par une commission indépendante. Lancée avec tambour et trompette le 27 octobre, cette consultation, qui est obligatoire pour des projets d'une telle importance, est censée durer 4 mois, et son utilité s'annonce à peu près nulle. Le feu vert définitif pour les EPR 2 dépend en principe d'une loi qui doit être votée à l'issue du débat. Personne ne doute qu'elle sera adoptée entre les macronistes, LR, le RN, le PC et une partie du PS. Les pro-nucléaires disposent déjà à l'Assemblée d'une large majorité. Le gouvernement et EDF en sont si sûrs qu'ils ont déjà tout organisé pour que le chantier des 6 premiers EPR 2 soit lancé dès l'été prochain. Destiné à accélérer la construction des réacteurs, un projet de loi complémentaire a même été bouclé avant que ne débute le débat sur leur nécessité. Il définit une législation d'exception. Les futurs EPR seront dispensés de la plupart des formalités d'urbanisme. Ils pourront déroger aux lois sur les espèces protégées et les recours en justice des opposants deviendront quasi impossibles. Michel Badret, le haut fonctionnaire président du débat public, a évidemment apprécié. Je ne sais pas très bien pourquoi le gouvernement a publié ce texte, a-t-il grincé dans le journal Le Monde, article du 26 octobre. La mise en service des premiers EPR2 devant être échelonnée de 2035 à 2050, une telle précipitation paraît assez saugrenue. De nombreux experts tiquent également en constatant que l'aventure des EPR frôle pour l'instant le fiasco industriel. La centrale de Flamanville n'a toujours pas démarré, le réacteur finlandais a dû être arrêté pour des soucis de turbine et les deux exemplaires chinois ont le cœur nucléaire fragile. Autre entorse au principe de sécurité atomique, aucun prototype n'est prévu pour tester la fiabilité des EPR 2. Cette vérification serait d'autant plus bienvenue qu'il s'agira d'un modèle d'EPR simplifié. La double enceinte de protection bétonnée autour du cœur sera supprimée. Et les dispositifs chargés de récupérer le corium, c'est-à-dire le magma formé par le cœur en fusion en cas de catastrophe nucléaire, seront moins performants. Le tout pour un modique prix unitaire prévu à 8,5 milliards d'euros. Gestion des déchets et coûts de démantèlement non compris, nous dit Le Canard Enchaîné et Hervé Liffrand dans cet article. Effectivement, c'est une concertation alibi pour des décisions qui sont plus que coûteuses et totalement inopérantes et qui vont retarder bien sûr toutes les solutions qui sont à mettre en œuvre, le nucléaire n'en faisant absolument pas partie. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le recul de cette part dans la production mondiale d'énergie qui est constante, continuelle. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, avec le réseau Sortir du Nucléaire et Greenpeace, je voulais faire état d'un communiqué du 4 novembre nous disant que le gouvernement a rendu public, donc il y a une dizaine de jours, l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi visant à accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants. Cet avis est sans appel, donc, du Conseil d'État. Le gouvernement doit revoir sa copie et n'a pas carte blanche pour passer en force sur le nucléaire. Contrairement au projet d'installation de production d'énergie renouvelable, les EPR 2 ne répondent pas à la qualification de raison impérative d'intérêt public majeur, car le gouvernement n'a pas apporté de justification suffisante, d'une part, quant à la puissance prévisionnelle des installations futures, d'autre part, quant à la contribution attendue pour la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont notamment la sécurité d'approvisionnement, la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et la compétitivité des prix de l'énergie. S'agissant du droit à la participation du public lors de la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, le Conseil d'État rappelle également qu'un projet de PR2 ne pourra pas être qualifié d'intérêt général avant la fin du débat public et que les impacts environnementaux notables devront faire l'objet d'une enquête publique. Enfin, le Conseil d'État se montre sceptique quant aux motivations de ce projet de loi d'accélération des procédures administratives. Il rappelle que le manque d'expérience récente de construction de réacteurs nucléaires relativise les appréciations qui peuvent être portées sur ces délais et estime que le gain de temps attendu au niveau des procédures administratives ne peut être évalué avec certitude. La légèreté de l'étude d'impact du projet de loi, largement relevée par le Conseil d'État, montre combien le gouvernement est convaincu de pouvoir passer en force sa relance du nucléaire sans avoir besoin de se justifier. Mais le Conseil d'État rappelle à l'ordre le gouvernement. Le développement rapide des projets EPR2 est une chimère et le projet de loi d'accélération du nucléaire bafoue la consultation démocratique. Il est temps que le gouvernement revoie ses plans et mise sur les énergies renouvelables dont le déploiement massif est urgent, estime Pauline Boyer, qui est chargée de campagne Transition énergétique à Greenpeace. La dernière version du projet de loi présentée en Conseil des ministres le 2 novembre a pris en compte en grande partie l'avis du Conseil d'État. Cependant, s'agissant des réacteurs en fonctionnement, cette nouvelle version a maintenu la suppression des rapports quinquennaux sur l'état des équipements nucléaires au-delà de la 35e année. Greenpeace et le réseau Sortir du nucléaire s'inquiètent de ce recul au niveau de la sûreté nucléaire compte tenu de la volonté du gouvernement de prolonger la durée de vie des centrales bien au-delà de leur durée de vie technique. Voilà, tout ça fait suite à au dépôt d'un recours au Conseil d'État par Greenpeace et le réseau Sortir du nucléaire. Et puis, puisqu'on est toujours sur le sujet du nucléaire, cette fois-ci avec la revue Le Mensuel, La Décroissance, et la chronique de Stéphane Lhomme, une chronique anti-nucléaire, qui nous donne aussi quelques éléments du contrôle de la consommation, en tout cas tel qu'il est centralisé et mis en place par le gouvernement, et l'intitulé de son article, c'est « La sobriété par le nucléaire et les Linky ». Stéphane Lhomme constate qu'avec les tensions croissantes sur l'énergie et la production d'électricité, l'état atomique se met à organiser la sobriété. La limitation des consommations se fait en renforçant les contraintes sur tout un chacun avec un contrôle et un pilotage des comportements qui s'immiscent jusque dans les foyers. Le contrôleur connecté Linky est là pour ça. Ça fait des décennies que sous les colibets et les railleries, les écologistes, les vrais, nous dit Stéphane Lhomme, pas les imposteurs comme Hulot et Artus Bertrand, ou les politiciens comme Duflot, Placé, Pompili, De Rugy et compagnie, les écologistes, donc les vrais, alertent leurs contemporains sur les ravages de la surconsommation et sur la nécessité de changer radicalement le fonctionnement de nos sociétés dites modernes afin de laisser à nos enfants une terre habitable. Les plus anciens se souviennent de René Dumont brandissant un verre d'eau lors de la campagne de l'élection présidentielle de 1974. Il était considéré comme un vieux fou agitant des peurs millénaristes. Plus près de nous, il y a 2 ans à peine, le dénommé Emmanuel Macron défendait le déploiement de la 5G en assimilant les opposants à de ridicules amish prenant le retour à la lampe à l'huile. Tout ça, c'est des citations. Hein. Mais aujourd'hui, il faut croire que tout a changé. En juin, les patrons d'EDF, Total et Engie ont publié une tribune appelant les particuliers et entreprises à la sobriété énergétique. En juillet, 84 dirigeants d'entreprise, dont encore le PDG d'EDF, décidément à la pointe de la fronde, ont appelé à une sobriété organisée plutôt que subie. En septembre, c'est le PDG de Paris Aéroport qui a demandé à chacun de limiter les trajets en avion. Bigre ! Pourquoi pas un boulanger demandant de ne plus manger de pain ou un macronien appelant à ne plus mentir ? Fait remarquer Stéphane Lhomme. Début octobre, c'est carrément le gouvernement qui a annoncé un plan de sobriété énergétique pour passer l'hiver et préparer l'avenir avec les encouragements d'Emmanuel Macron lui-même, subitement converti à l'amichisme. Décrétant mystérieusement, on doit tous se bouger, ce qui est peut-être un appel à faire du sport pour se réchauffer par un moyen naturel. Comment expliquer cet incroyable revirement de la part des pires pollueurs et des politiciens cyniques qui les soutenaient depuis toujours ? Ont-ils enfin compris la gravité de la situation après avoir lu La Décroissance ? Hélas, ils n'en sont pas encore là, mais du moins sont-ils obligés de prendre l'acte de prendre acte, de la situation actuelle. L'envol des prix des diverses énergies accéléré par la guerre en Ukraine. Ce contexte international est démultiplié en France par un phénomène que presque personne ne pouvait prévoir, hormis les fidèles lecteurs de la présente chronique, avertis du délabrement avancé des centrales nucléaires d'EDF. En effet, depuis des mois, c'est environ la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt, avec une pointe à 32 sur 56, soit près de 60% du parc. Quelques plaisantins sont montés au créneau pour tenter de faire croire que les problèmes venaient de la récente fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il faudrait donc croire que tout allait pour le mieux avec 58 réacteurs et que le désastre est au rendez-vous puisqu'on n'en a que 56. Or, depuis des mois, ce sont les pays voisins qui n'ont que quelques réacteurs et parfois aucun qui sauvent la France du blackout en lui vendant d'immenses quantités d'électricité. Le temps est actuellement clément, mais lorsque la température va commencer à baisser, nos voisins ne pourront probablement plus exporter et la France atomique se retrouvera le bec dans l'eau. C'est en prévision de ces heures noires à venir que les nouveaux tenants de la sobriété ont dégainé une arme, la prise en main des consommations électriques des habitants par le biais des compteurs communicants Linky. Pour mémoire, donc, Stéphane Lhomme s'occupe de longue date de surveiller l'industrie nucléaire. Il s'est intéressé depuis 2015 à la question des compteurs communicants, sachant que tôt ou tard, les deux dossiers allaient se rejoindre, et c'est désormais le cas, constate-t-il. Fin septembre, un décret gouvernemental a ainsi autorisé le distributeur d'électricité Enedis, qui est une filiale d'EDF, à déconnecter le réchauffement automatique de l'eau des cumulus pendant les heures creuses de la mi-journée. Nous n'entrerons pas ici dans les explications techniques, mais sachez que ce sont les fameux compteurs Linky qui permettent ce tour de passe-passe. Sauf, bien sûr, à l'encontre des 4 millions de foyers qui ont eu la bonne idée de résister aux menaces d'Enedis et de ses sous-traitants et qui ont gardé leur compteur ordinaire. Dans un bel ensemble, les prétendus grands médias menée par l'AFP, bras armé de la désinformation gouvernementale, nous dit Stéphane Lhomme, ont tenté de désamorcer l'affaire en insistant sur le fait que le décret ne visait que quelques millions d'habitants et que l'eau des cumulus pouvait être chauffée la nuit, oubliant délibérément le plus important. Ce décret n'est qu'un ballon d'eau chaude, précise Stéphane Lhomme, ce décret n'est qu'un ballon d'eau chaude d'essai et confirme ce que nous dénonçons depuis des années. Oui, les Linky vont être utilisés pour prendre arbitrairement la main sur les consommations des citoyens et tôt ou tard en leur coupant carrément l'électricité. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous avez la mémoire courte. Il y a quelques mois à peine, sous prétexte d'une guerre menée contre un virus, certaines de nos libertés les plus élémentaires ont été suspendues sans la moindre discussion. Alors n'ayez aucun doute, grâce au délabrement du parc nucléaire d'EDF et à la présence en France de 30 millions de compteurs Linky, les nouveaux amiches du gouvernement vont plonger le pays dans une exaltante expérience de sobriété et même de décroissance. Pas sûr toutefois que cela se passe dans la joie et la bonne humeur. Joie et bonne humeur qui sont aussi la devise du journal, donc du mensuel La Décroissance. Cet article m'a paru intéressant pour bien montrer que on peut avoir des décisions d'ampleur prises finalement au nom du bien commun et prises de manière extrêmement soudaine et non concertée. On l'a vu sur les cumulus et donc voilà, c'est une porte ouverte à des décisions imposées et à grande échelle. Et à l'intrusion de plus en plus profondément de l'État et son bras armé dans nos maisons et dans notre intimité. Voilà pour le sujet. Et puis peut-être pour terminer, toujours revenir aussi en région parisienne sur la question des substances radioactives dans l'eau. Un article intéressant du réseau Sortir du nucléaire du 14 octobre qui nous dit que des substances radioactives dans l'eau du robinet des Franciliens et que le gouvernement doit prendre des mesures d'urgence puisque sur les mois de juin et juillet 2022, le réseau Sortir du nucléaire a fait analyser toutes les semaines par le laboratoire de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, donc l'ACRO, l'eau potable de Choisy-le-Roi en région parisienne, et le résultat est sans appel. 100% des échantillons prélevés contenaient du tritium, qui est un élément radioactif quasi inexistant à l'état naturel. Les taux demeurent en dessous des limites de potabilité, mais cette contamination chronique pose question notamment en cas d'accident. En cause, la centrale de Nogent-sur-Seine, située à plus de 100 km en amont de l'usine de potabilisation de Choisy-le-Roi et qui rejette régulièrement dans la Seine tritium et autres pollutions chimiques et radioactives. Alors qu'à l'état naturel, ce radioélément n'est présent qu'à l'état de trace, l'activité mesurée dans l'eau potable des robinets de la ville est comprise entre 10,4 et 22,1 becquerels par litre. Ce chiffre n'est pas anodin, d'autant plus que pendant la période de réalisation des analyses, seul l'un des deux réacteurs de la centrale de Nogent fonctionnait, le deuxième étant à l'arrêt pour maintenance sur les mois de juin et juillet 2022. Ces mesures viennent corroborer les données déjà compilées sur la période 2016-2017 par l'ACRO qui faisait état d'une contamination moyenne de 10 becquerels par litre pour Choisy-le-Roi. La présence de tritium dans l'eau du robinet y est donc un fait depuis plusieurs années au moins. Les habitants de Choisy-le-Roi ne sont d'ailleurs pas les seuls à boire de l'eau contaminée. Au tritium, l'usine de potabilisation de la ville alimente 56 communes, soit près de 2 millions d'habitants des banlieues sud et ouest de Paris. Si les taux de tritium relevés restent inférieurs au seuil de potabilité, par ailleurs fixé très haut, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de seuil d'innocuité pour l'exposition à la radioactivité. Depuis plusieurs années, le collectif Loire et Vienne Zéro Nucléaire effectue avec l'ACRO une surveillance régulière de ces deux cours d'eau et de l'eau potable. Les taux de tritium relevés y sont encore plus élevés. Rien d'étonnant puisque pas moins de 14 réacteurs y déversent régulièrement de l'eau contaminée. Les communes de Châtellerault, Angers et Saint-Martin-la-Rivière sont particulièrement touchées avec des taux qui dépassent régulièrement les 20 becquerels par litre dans l'eau potable. Cette contamination touche aussi la flore aquatique. Afin de compléter son étude, le réseau Sortir du Nucléaire a fait analyser par le laboratoire de la CRIRAD, donc la Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, des plantes aquatiques en aval de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Malgré l'arrêt complet d'un des deux réacteurs et la période peu propice puisque les algues n'ont pas encore atteint leur stade de croissance maximale à cette saison, des taux significatifs de tritium et de carbone 14 ont été détectés, ce qui confirme la contamination chronique et persistante de la Garonne par l'installation nucléaire. Contamination qui impacte aussi des villes comme Agen qui pompe son eau potable en aval de la centrale de Golfech. La présence de tritium doit lancer l'alerte car en cas d'accident sur une centrale nucléaire, d'autres éléments radioactifs pourraient également être rejetés. Ces résultats démontrent que dans un tel cas, l'eau potable de millions de citoyens pourrait être impropre à la consommation et s'il peut être envisagé de ravitailler de petits villages par des camions-citernes, quid de la situation dans les métropoles et évidemment en région parisienne. En cas de rejet massif à Nogent, ce sont 4 millions de Franciliens qui seraient exposés et qu'il faudrait approvisionner en eau potable. Dans un courrier envoyé donc courant octobre et co-signé par France Nature Environnement, le réseau Sortir du Nucléaire interpelle la ministre en charge de la transition énergétique et lui demande que soient menées des analyses régulières des rejets de tritium dans l'eau par un organisme indépendant. Actuellement, c'est le pollueur, c'est-à-dire EDF lui-même, qui doit déclarer à l'autorité de sûreté nucléaire toute activité volumique anormale en tritium, ce qui est une aberration, note le réseau Sortir du Nucléaire. Autre demande, celle d'une étude pluraliste sur les conséquences sur la santé et l'environnement d'une exposition chronique aux faibles doses de tritium. Au-delà de ces mesures d'urgence, alors que cet été a vu se multiplier les dérogations pour permettre à certaines centrales de poursuivre leur rejet d'eau chaude, les associations rappellent que les enjeux liés à la ressource en eau dans un contexte de changement climatique interrogent la pérennité du recours au nucléaire et imposent la remise en question des projets de construction de nouveaux réacteurs. Voilà pour ce qui est de ce sujet. En tout cas, ça me semble utile de le rappeler. Alors, puisqu'il nous reste assez peu de temps avant de rendre l'antenne, bien, on peut faire rapidement un écho à la condamnation de l'État à une amende record de 20 millions d'euros. Donc rappelé par Novetic dans un article du 18 octobre, l'État a été condamné pour ne pas avoir réduit suffisamment vite la pollution de l'air. Le Conseil d'État vient de lui infliger une amende record de 20 millions d'euros. En août 2021, il l'avait déjà condamné à verser 10 millions d'euros. La pollution de l'air tue chaque année 40 000 personnes en France Et si des améliorations dans la durée ont été constatées, les seuils limites de pollution au dioxyde d'azote qui doivent être respectés depuis 2010 restent dépassés dans plusieurs zones en France, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille. À ce jour, les mesures prises par l'État ne garantissent pas que la qualité de l'air s'améliore de telle sorte que les seuils limites de pollution soient respectés dans les délais les plus courts possibles, indique le Conseil d'État dans sa décision. En août 2021, la France avait déjà été condamnée à verser 10 millions d'euros pour ne pas avoir renforcé suffisamment son dispositif contre la pollution. Saisi en juillet 2017, le Conseil d'État avait enjoint à l'État de mettre en œuvre des plans de réduction des niveaux de particules fines ou de dioxyde d'azote, notamment associés au trafic routier dans 13 zones. C'est une décision qui nous paraît raisonnable, s'est félicité Louis Coffelard, avocat des Amis de la Terre. Les sommes iront essentiellement à des organismes publics luttant contre la pollution de l'air et 50 000 euros seront reversés à l'association Les Amis de la Terre qui avait saisi initialement le Conseil d'État en 2017. La pollution liée notamment au trafic automobile représente un enjeu important de santé publique. La mortalité liée à la pollution de l'air ambiant reste un risque conséquent en France avec 40 000 décès attribuables chaque année aux particules fines, souligne Santé publique France dans un communiqué de l'an dernier. Voilà, pour ce qui concerne les mangeux de terre, on a fini notre tour d'horizon. On se retrouve d'habitude, en tout cas on essaye de maintenir cette habitude, le premier lundi du mois à 18h, donc le premier lundi du mois, j'ai pas fait le calcul, mais en tout cas ça, voilà, premier lundi du mois du 2 décembre. D'ici là, bien sûr, vous restez à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz et je vous souhaite un bon mois en cours, un bon mois de lutte, un bon mois de lecture, de réflexion et restez à l'écoute de Radio Libertaire bien sûr sur 89,4 MHz.
Homme, te souvient-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis, t'amenant chaque jour venu de la chapelle, jadis, déjà pourtant combien je me rappelle. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil. Et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Ta foi du charbonnier m'en semble quelques tendances aussi franches à nier, mais si vite quitter au premier pas du doute, et puis nous rentrions plus que lent par la route, un peu désécollé chez moi, chez nous plutôt, et déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne. Thank you.
sé cómo decirte, no sé cómo explicarte que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra, la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Ya mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón.
Ah, c'est ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail.